Et Metal Hurlant, comme les Codes et Savanes, est une, appelons ça une dissidence de pilote, puisque c'est trois anciens de la revue qui étaient dirigés par Goscinny qui y sont partis. Donc Philippe Druyer, donc, bien connu pour ses mises à page complètement éclatées, cette espèce de space opera ultra baroque, Jean Giraud dit Moebius, et Jean-Pierre Dionnet, donc, qui était un scénariste dans Pilote et qui va rapidement dans Metal Hurlant prendre le rôle de rédacteur en chef. C'est véritablement lui qui va devenir la principale cheville ouvrière de la revue. On est là en 75, lorsque la revue apparaît pour la première fois, donc on est vraiment dans cette période, finalement les Codes et Savanes étaient là quelques années auparavant, Charlie aussi, Fluide Glacial apparaît la même année, donc on est vraiment dans une période où ce sont véritablement les revues qui portent les innovations. Je veux dire, il y a évidemment des albums qui existent, puisque vont se créer les fameuses éditions des humanoïdes associés, mais c'est d'abord la revue qui est la matrice à partir de laquelle se construit le catalogue, si on veut. Revue qui est donc une revue de science-fiction, en tout cas dans les premières années, c'est vraiment dans ce registre-là que se situe l'essentiel des créations. C'est un catalogue de toutes les manières de la science-fiction, puisqu'on a aussi bien la science-fiction high-tech, un peu à la Isaac Asimov. On a de la science-fiction complètement métaphysique, très expérimentale, des constructions de la narration, notamment avec Moebius. Il y a de la science-fiction complètement parodique et délirante. Enfin, tout le catalogue des possibles est exploité. Et un des premiers chocs, véritablement, c'est Moebius, d'abord avec Arzak en 75, et puis l'année suivante, le Garage Hermétique. Donc au départ, le récit met en scène un certain ingénieur Barnier qui révise un appareil et la révision tourne court. Moebius explique que cette histoire-là n'était pas destinée à avoir une suite, c'était purement une expérience. Je pense que la définition d'une revue dans ce qu'elle a de plus excitant, c'est que c'est toujours un laboratoire, mais peut-être que Metal Hurlant était encore plus que d'autres, où vraiment on a essayé des tas de choses, où il y a des expériences effectivement qui parfois se révèlent foireuses, mais d'autres qui sont absolument passionnantes, comme celle du Garage Hermétique. Donc s'il y avait bien une histoire qui n'était pas destinée à avoir une suite, c'était celle-là. Et Dionnet a l'intuition de génie de pousser justement Jean Giraud, Moebius, à continuer. Il dit, ben non, ton histoire, tu la continues, tu nous redonnes deux nouvelles planches pour le mois prochain. Donc il va continuer comme ça, sans jamais chercher à construire une intrigue structurée. Il le dit lui-même dès que me venait l'ambition de durcir la ligne du récit, entendons par là la rapprocher d'un récit classique avec une succession d'intrigues, un dénouement, etc. Je cassais tout et je repartais à l'aventure. Et ce qui est étonnant, c'est que alors qu'effectivement c'est construit sans scénario préétabli, où Giraud explique que très souvent il n'avait même qu'une très vague idée de ce qu'il avait publié le mois précédent, on se rend compte que le récit, à la relecture aujourd'hui, est extrêmement cohérent, et l'effet feuilleton est peut-être moins dans, classiquement, quelles sont les péripéties qui vont arriver au personnage, enfin si c'est intéressant, mais surtout se demander comment l'auteur va faire pour à nouveau déconstruire le récit, à nouveau saper, démolir la construction narrative qui était la sienne. Voilà, on est dans le domaine de la science-fiction, avec aussi Druyer, mais qui à l'époque connaît une période sur le plan personnel très difficile avec le décès de son épouse, donc lui sera finalement assez peu présent dans les premiers numéros, même s'il faisait vraiment partie du trio fondateur. La revue va évoluer, notamment avec l'arrivée de Philippe Manœuvre, qui est évidemment bien connu aujourd'hui, on le voit à La Nouvelle Star. Mais à l'époque, c'est surtout une des petites mains de Rock et Folk, cette célèbre revue sur le rock. Manœuvre débarque là, je pense qu'il faisait un genre d'intérim pendant les vacances. Enfin, toujours est-il qu'il avait réussi à s'installer, à avoir un bureau et en quelques mois à se rendre indispensable. Et donc lui, il va développer un concept qui peut prêter à rire, qui est celui de la BD rock, peut-être plutôt punk et new wave, puisqu'on est, on est en plein là-dedans à l'époque. Margerin avait envoyé des planches, c'était un petit jeune, et apparemment c'était resté dans un tas, et puis il était venu les rechercher de Guerlas à la rédaction. Apparemment Dionnet a vu que c'était pas inintéressant, que ça collait avec l'esprit BD rock qui était porté par Philippe Manœuvre. Et effectivement, il y avait ce côté très rock'n'roll, cette description de la banlieue avec des côtés un peu foireux, et quelque part là entre Gaston Lagaffe et les Fabulous Furry Free Brothers de Shelton, presque naïf, quoi. Il y a quasiment un côté boy scout chez Margerin, mais qui va, je pense, quasiment sauver les humanoïdes associés, qui leur permettra de continuer. Et donc apparaît aussi un petit peu comme finalement un phénomène tel qu'on va le retrouver en musique à la même époque avec la New Wave, qui est une musique assez froide, très distanciée. Toute l'explosion qui avait été celle des années 60, cette volonté de transformer la société, etc., qui était portée par des idéaux finalement assez naïfs. Enfin, ils se sont révélés naïfs par la suite d'inventer une société différente. Là, on peut dire que les derniers feux de mai 68 sont en train de s'éteindre, et donc on a une attitude plus cynique par rapport à ça, et surtout on commence à revisiter le passé. Et en bande dessinée, ça donne le retour d'esthétique qui rappelle des gens comme Hergé, comme les débuts de Jigé par exemple, ou de Tilleux, donc qui était vraiment ce qu'on ne trouvait pas dans les années 60 ou au début des années 70, parce qu'il fallait justement que la bande dessinée se situe en rupture par rapport à ces modèles issus d'une bande dessinée qui était considérée comme étant destinée aux enfants. Et donc on va voir des gens comme Serge Clair ou comme Yves Chaland qui vont réactiver cette esthétique-là. Ça a donné des choses assez imbuvables, comme Dominique Hay par exemple, qui fait une espèce de sous-Jacobs très premier degré. Par contre, la démarche de Chaland est très très différente, profondément ambiguë. On ne sait pas si là on est dans un hommage à ces pionniers de la bande dessinée belge, ou si on est dans une relecture ironique. En fait, je suis persuadé qu'on est entre les deux tout le temps. Et dès que Chaland semble être très ironique, où il surjoue par exemple l'idéologie catholique qu'on trouvait dans les journaux Tintin et Spirou, où on voit des curés au comportement absolument abject, et puis jouer aussi une espèce de xénophobie latente qu'on pouvait trouver dans la bande dessinée d'après-guerre, avec toujours des Chinois en train d'espionner dans un coin, ce genre de choses. Bob Fiche Détective, qui est une référence très claire à Jean Valardi Détective que dessinait Jigé, mais il en fait un personnage qui est purement et simplement un gros facho. Et puis en même temps, il y a un amour très fort qui relève de l'attachement intime à cette bande dessinée belge, on va dire des années 50. Il y a une volonté, semble-t-il, d'essayer de ressusciter la magie qui a dû être celle qu'il a connue quand gamin il découvre Tintin et Spirou. Et en même temps, il y a cet homme qui est là dans les années 80 et qui ne peut pas être totalement dupe de sa naïveté, qui ne peut pas refaire un décalque, et d'ailleurs c'est sans intérêt. Donc il est tout le temps dans cette ambiguïté foncière entre l'hommage, la jouissance naïve de ressusciter quelque chose qui lui a plu, et d'autre part, cette mise à distance, cette manière de surjouer en quelque sorte peut-être les éléments les plus dérangeants de cette bande dessinée, tout ce qui a trait notamment à l'idéologie catholique dans ce qu'elle a de plus conservateur. Voilà, il y a des tas de choses dans Métal Hurlant, c'est vraiment, peut-être encore plus que toutes les revues de la même époque, vraiment une ripopée. Quand on feuillette ça, il y a des choses, on se dit mais comment est-ce que tout ça peut se trouver dans le même numéro? Mais on se rend compte qu'il y a quand même une cohérence là-dedans, que Dionnet est au cœur de la revue, c'est lui qui pose l'essentiel des choix éditoriaux, de la même manière que le faisait Wolinski dans Charlie par exemple, ou que l'a fait Mandrika dans les premières années de l'Écho des Savanes. Il y a une cohérence, il y a une évidence qui se dégage de cette revue, même s'il y a des tas de machins absolument illisibles aujourd'hui. Je parlais de Dominique, voilà, il y avait par exemple Macedo qui dessinait à l'aéroport une espèce d'idéologie baba cool, mais où on se dit qu'on a intérêt à suivre son point de vue baba cool et d'être d'accord avec lui. Ça, il n'y a aucun numéro qui est parfait. Enfin, on peut avoir un numéro, on se dit il est génial, mais la couverture vire au côté chromo heroic fantasy dans ce que ça peut avoir de pire. Et puis il n'y a aucun numéro non plus où il ne se passe pas quelque chose à un moment donné, quoi. Puis il y a une autre chose qui est vraiment très présente dans Metal Hurlant, c'est cette connexion avec les autres médias, puisque les humanoïdes associés vont très vite publier des romans. Dans le début du catalogue, c'est très présent. Il y avait vraiment une volonté de ne pas se cantonner dans la bande dessinée. Le cinéma est très présent aussi à travers différentes rubriques. Il y avait une rubrique demeurée célèbre qui s'appelle À toute berzinc, où on chroniquait effectivement des bandes dessinées, mais aussi le cinéma, la littérature, beaucoup le polar, la science-fiction, la musique, etc. C'est très, très drôle à lire aujourd'hui, parce que parfois, quand ils disent que U2 est un groupe qui n'aura sans doute pas les épaules très solides pour faire une grande carrière par la suite, on parle carrière sur le plan commercial, on rigole quand même un petit peu. Et puis il y a des choses tout à fait visionnaires, on taille à la hache sans grande subtilité. Ici même, de Tardier Forest a été complètement démonté. Par contre, la moindre réédition de Jigé était portée au pinacle. Voilà, et il y a un lien très fort entre la revue et la télévision, et puis tout le milieu des concerts parisiens, des clubs comme le Rose Bonbon, qui était apparemment the place to be à l'époque, où traînaient pas mal de dessinateurs, où la cocaïne, apparemment, il suffit de se baisser pour en trouver, en tout cas c'est ce qu'on raconte. Ça a fait des dégâts aussi auprès de séries de personnes liées à Métal Hurlant. Il y a un beau dessin de François Hérol où il note la ligne claire entre en scène, et on voit des caricatures. Je pense que dans le tas, il doit y avoir Chaland et Claire qui sont dessinés en train de cirer leurs pompes, de se regarder dans le miroir, de graisser leurs cheveux, etc., pour avoir un look complètement impeccable. C'était l'époque des Enfants du Rock sur la télévision française, genre d'émission qui paraît assez impensable aujourd'hui. Il y avait une rubrique qui s'appelait Sex Machine, qui était dirigée par Manœuvre et Dionnet, qui faisaient des imbéciles, et où on retrouvait ces filles topless, etc., mais voilà, quand mes parents n'étaient pas là, c'est le genre de truc que j'allais regarder. Mais ça a été aussi toute la musique New Wave de l'époque, et qui finalement générait un esprit qui était assez comparable à ce qu'on trouvait dans la bande dessinée de l'époque. Mais c'est une revue qui est pleine de contradictions, puisqu'on trouvait à la fois cette imagerie pour camionneur que Manœuvre, semble-t-il, de ce que j'ai pu en lire, a beaucoup suscité, où on trouvait les bandes dessinées de Nissir, pour reprendre une formule que j'avais lue, je crois, dans le catalogue de l'époque, les filles sont belles comme des camions. Enfin. Puis à côté de ça, il y avait Odile et Crocodile de Chantal Monteillet, qui je pense est l'œuvre la plus intéressante qu'elle l'a faite sur une jeune femme qui se fait violer et puis qui va rendre la justice par la suite. Voilà, on a quand même l'impression que ces deux choses-là ne peuvent naturellement pas se retrouver dans la même revue. Il y a même une sorte de petite sœur de Métal Hurlant qui s'appelait Anana, qui a juste eu quelques numéros, qui étaient produites par des filles, où on retrouvait notamment Monteillet, Sestac, Jeanne Pujol, des gens comme ça, dirigés par la compagne de Dionnet de l'époque. Et ça, à côté d'une imagerie franchement beau, franchement machiste, qui est quand même un trait commun, qui est propre à la presse de bande dessinée des années 80, et qui est, à mon avis, le symbole de sa décadence, de sa fin. Les revues comme Charlie, mais le Charlie post-Volinsky, comme les Codes des Savanes, période Albin Michel, ou le Métal Hurlant finissant, bah, étaient rangés dans les revues de fesses entre Playboy et Paris Las Vegas. Alors c'est assez lamentable, on peut regretter que les revues soient classées là, mais d'une certaine manière, ils l'avaient bien cherché.